Bonjour Claude.
Bonjour Nicolas.
Et on reste sur le même sujet, je donnais les unes tout à l'heure, Jean-Michel Blanquer s'impose dans les journaux.
Des journaux qui célèbrent le ministre de l'Éducation dans une espèce de chant choral. Le Point, Valeurs Actuelles, L'Opinion, Le Parisien, Libération, La Croix, Le Figaro étouffent le ministre sous l'éloge. La tour réformateur de Macron, la nouvelle star, le macronisme, avec mention, le ministre qui secoue le mammouth. Mais là, attention, le mammouth, c'était le mot de Claude Allègre, qui fut il y a 20 ans un ministre de l'éducnat, comme on disait, populaire, avant de sombrer dans l'impopularité. Et si vous lisez Valeurs Actuelles, vous verrez que le camp réactionnaire attend beaucoup et peut-être trop de Monsieur Blanquer. Mais y pense-t-on ce matin quand le ministre sature l'espace? Et cela nous raconte aussi ce qu'est le journalisme politique qui s'ennuie dans le nouveau monde et qui a besoin de vedettes, de chair fraîche. Et donc peut-être lui, Monsieur Blanquer, qui, vous l'avez dit, sera ce soir à l'émission politique sur France 2.
Et c'est Nicolas... Noblesse, ça,
hein. Et Nicolas et Léa Salamé qui préparent l'émission en nous écoutant, nous pouvons nous demander si l'audience viendra confirmer la bonne réputation. Blanquer décroche son bac pol, comprenez le bac politique, c'est l'opinion qui nous dit ça et qui humanise, c'est un classique. Blanquer aime la musique, il aime l'Amérique latine et puis aussi un arbre qu'il caresse dans son ministère, mais ça le journal du dimanche me l'avait déjà raconté. Le Point, lui, couronne Blanquer est le vice-président. Mais en interview, l'habile ministre se dérobe à la gloire et ne veut connaître que celle du souverain. Le blanquérisme n'existe pas, dit-il. Le macronisme, oui, c'est la capacité à dépasser les clivages stériles et la foi dans la possibilité du progrès, Monsieur Blanquer sur Monsieur Macron. Mais en même temps, Monsieur Blanquer, encore plus habile que cela, réussit à s'installer dans nos cortex. J'habite la politique, mais je reste qui je suis, dit-il. Qui est-il? Eh bien, un homme qui se revendique tel un philosophe du beau et du vrai, et aussi de Charles Péguy, une icône, et qui nous dit « Je suis un avocat de l'art de vivre français façonné depuis des siècles, le goût pour le bonheur, la générosité et l'élévation de l'esprit. Monsieur Blanquer, et oui Nicolas, une bête politique est née qui caresse mes oreilles. » Mais tout de même, on peut se demander si la presse politique n'est pas un petit peu dans sa bulle à se passionner pour le destin d'un ministre, quand ailleurs, à la une de La Provence, du Parisien, de Midi Libre, de La Dépêche ou de l'Alsace, on titre sur une petite fille, Maëlys et son bourreau. La gloire de Blanquer souligne aussi par contraste l'oubli dans lequel a disparu un homme qui compta pour l'école. Vous lirez dans Le Monde une courte nécrologie de Guy Georges, non pas le criminel, mais un instituteur archétypal de ceux que célébrait Péguy, fils d'ouvrier de Haute-Marne devenu enseignant. Il était, il y a 40 ans, le patron de l'hégémonique syndicat national des instituteurs et il portait deux rêves, celui d'un grand service public laïque, mais aussi d'une école fondamentale qui aurait unifié les élèves du CP jusqu'à la troisième, de projets dispersés au vent. Guy Georges est mort le 3 février dernier et Le Monde a donc attendu 11 jours pour remarquer son absence. On parle de lui aussi dans Le Quotidien de la Haute-Marne, un enfant du pays, et sur un site internet qui s'appelle Débat Laïque. 3 jours avant sa mort, l'homme Guy Georges écrivait encore une note vengeresse contre l'abandon de la laïcité par ses amis socialistes. Aurait-il, Nicolas, mérité la gloire et la réforme?
C'est une figure importante, hein, François
Dubé. Ça a été une figure très importante. Tant que le grand syndicat était la FEN et que le patron de la FEN était le patron du SNI, et le patron du SNI des instituteurs était Guy Georges. Tout ça s'est cassé dans les années 70, quand le corps des enseignants du secondaire a démographiquement gagné la bataille, quand le gouvernement de l'époque a choisi de casser la FEN qui était trop puissante à ses yeux, et que le syndicalisme est plutôt dominé aujourd'hui par les enseignants du secondaire.
Le fait de savoir si le collège est un petit lycée ou une école...
Voilà, c'est là-dessus que Guy Georges a perdu la bataille.
Voilà, une école élémentaire supérieure, ça c'est
Au fond, on peut regretter qu'il ait perdu.
Un SDF pour le reste, Claude, dans la presse, écrit au président.
Ce qui confirmerait la lettre au président, le roi, notre tempérament monarchique, mais cette lettre n'est guère amène. Moncef, 49 ans, dans Libération, tunisien venu d'Italie, interpelle « Monsieur le président, écoutez un pizzaïolo sans abri. Monsieur Macron, regardez, dit-il, je suis en France, je travaille et je n'ai pas de toit. Regardez là mon portefeuille, j'ai une carte bleue, un permis de conduire, tous les papiers qu'on puisse imaginer. Pourtant, tous les soirs, j'appelle le 115. Tenez, monsieur Macron, essayé une fois. Et Monsef raconte un centre d'hébergement où il n'est resté qu'une heure, tant la saleté l'écœurait. La pauvreté n'est pas une déchéance morale. Dans La Voix du Nord, on lit trois portraits très dignes de sans-abri qui racontent comment ils ont basculé. Et on voit l'un d'eux, Thierry, un monsieur tout le monde, quinquagénaire, qui parle bien mais qui s'est retrouvé à la rue en se fâchant avec sa famille. Il vit en foyer avec, dit-il, des clodos de profession et des gens qui bossent en intérim. Avec ces gars-là, j'ai plus appris en un mois qu'en 30 ans de vie normale. Tout ceci est humain et politique aussi, puisque les sans-abri sont le sujet sur lequel la gauche se retrouve contre un gouvernement ou une majorité qui s'est montrée coupable de légèreté. Dans l'Obs, Mathieu Croissando, directeur de la rédaction Sur le départ, se demande si le gouvernement est habité d'ignorance ou d'indécence. À propos des sans-abri, il conclut assez justement que cela revient au même Mathieu Croissando. On va recenser les SDF parisiens aujourd'hui dans une nuit de la solidarité organisée par la mairie de Paris et des associations. L'idée vient de New York, nous dit la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur le site internet de La Croix. Elle dit aussi, elle n'en fait pas trop, que la situation des sans-abri est un échec collectif.
Et des hommes, pour finir Claude, des hommes qui se battent en Lorraine.
Les héros trahis de la production, c'est dans Les Échos, ça s'appelle La dernière bataille des mineurs de Lorraine. Les charbonnages de France sont fermés depuis 10 ans, mais il reste plus de 3000 anciens mineurs qui demandent justice pour ce qu'ils ont subi et ce qu'ils vivent. Plaques pleurales, silicose, leucémie, ils ont été mis en danger il y a plus de 40 ans quand on relançait inconsidérément sans protection la production de charbon après le choc pétrolier. Nous avons été de la viande à charbon, disent-ils. Ils meurent à 61 ans, c'est une moyenne, la justice ne les attend pas. Enfin, un homme se bat, et lui il est tout seul, et il est plus ludique. C'est dans l'Est républicain, il s'appelle Max, et tague les radars. Il les rend aveugles par de la peinture orange. Il en a tagué 10 entre octobre et décembre, autour de Dole. Il veut se faire prendre pour témoigner pour la cause, pour témoigner, dit-il, pour l'ensemble des automobilistes qui payent 1 million d'euros par an à l'État et ont besoin de leur voiture pour aller au boulot. Satisfaction, il a été arrêté et placé en garde à vue en plein milieu de l'interview. Voilà un militant.
J'espère que l'interview a été captée en vidéo. Claude Ascolovitch, merci pour cette revue de presse.